France Culture.
La curiosité sous toutes ses coutures.
11h, 11h30,
un jeudi sur deux,
sur Radio Campus Angers.
Bonjour à tous et bienvenue dans France Culture. Au menu, tous les 15 jours, l'actualité culturelle de l'Anjou et plus si affinité. Au micro, nous sommes 7. 7 à fouiller, fouiner, dégoter les perles culturelles de la région. 7 dont la seule motivation sera la curiosité. Aujourd'hui, on vous emmène à Parçay-les-Pins. C'est dans l'est du département, pour découvrir le musée Jules Desbois, un musée de sculpture. Il accueille actuellement l'artiste Fabien Merel. Et on a beaucoup de chance de l'avoir tout près de chez nous. Fabien Merel expose dans le monde entier. On a beaucoup parlé de lui, notamment avec deux de ses statues qui sont exposées au Havre, dont Jusqu'au bout du monde, une colossale statue qui le représente avec son enfant sur les épaules regardant la mer. Pour en parler, nous accueillons Cécile Gouézé, responsable du service des publics et de la communication pour les trois musées insolites en Anjou. Cécile Gouézé, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Dans les trois musées insolites, il y a donc le musée Jules Desbois, à Parçay-les-Pins, mais aussi, si je compte bien, deux autres musées.
Oui, c'est ça. Le musée Joseph Denet à Beaufort-en-Vallée, le musée d'art et d'histoire de Baugé-en-Anjou.
On en parlera aussi rapidement du musée Joseph Denet à la fin de cette émission, si on a le temps. Alors, en studio avec moi pour animer, Cécile Adrien. Cécile, bonjour.
Bonjour Marie.
Le musée Jules Desbois, c'est une belle histoire de rencontre. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette exposition de Fabien Merel, que vous accueillez aujourd'hui, c'est aussi une incroyable histoire de rencontre. Et vous allez nous en raconter tout ça aujourd'hui, Cécile Gouézé. Mais pour commencer, qui était Jules Desbois ?
Alors, Jules Desbois, c'est un sculpteur du 19e siècle. Il est connu pour être un ami et collaborateur d'Auguste Rodin. C'est quelqu'un qui a été très reconnu de son temps, parce qu'il a fait énormément d'œuvres dans l'espace public, hein, que ce soit dans les grandes villes de province, mais aussi à Paris. Et puis, il a réalisé beaucoup d'œuvres qui ont marqué l'histoire de l'art, malheureusement, dans l'ombre de son aîné.
Alors bon, on va parler de ces œuvres connues dans l'espace public. On peut dire quand même on est à Angers, donc il y en a une qui est en face du palais de justice pour les Angevins. Bon, tout le monde n'est pas Angevin, mais pour les Angevins, c'est en face du palais de justice, c'est
le
monument aux morts, voilà,
de la ville d'Angers, effectivement, qui est une commande du maire de l'époque à Jules Desbois.
Alors quels étaient les donc il est dans le sillage de Rodin. Quels étaient leurs liens?
Alors, leur lien, tout simplement, on a une époque où il y avait beaucoup, beaucoup de sculpteurs, classiques. Mais ces deux personnages avaient une sculpture classique de base et ils ont su un petit peu se renouveler à une époque où, effectivement, l'histoire de l'art évoluait, modulait. Donc, vous êtes au début du XXe siècle et leur lien, c'est qu'ils ont cherché ailleurs et ils ont cherché d'autres manières de faire.
Alors Jules Desbois, c'est un sculpteur assez réaliste qui célèbre le corps humain, le mouvement et surtout la femme. Comment représente-t-il la femme ?
Alors Jules Desbois a toujours eu tout au long de sa carrière une adoration pour toutes les danseuses parisiennes mais vraiment avec beaucoup de respect. Donc il les faisait poser, il faisait des sculptures de ces femmes avec un modelé extrêmement précis, avec des courbures et surtout des équilibres qui ont été remarqués à l'époque. Il cherche la complexité, donc du coup vous avez des œuvres qui sont extrêmement complexes mais extrêmement élégantes aussi et pleines de beauté. Ouais.
Des femmes tout en longueur. Hein.
Des femmes tout en longueur, quitte à rajouter quelques vertèbres et à rallonger jambes et bras au service de l'esthétisme.
Ouais. Oui, ça nous donne des complexes. Il y a une œuvre emblématique d'une femme aussi qui est dans ce musée. On en reparlera tout à l'heure parce qu'elle rajoute encore à l'histoire de cette exposition. C'est une femme âgée, décharnée, nue, mais dans une pose malgré tout pudique. C'est la misère qui est assez impressionnante. Alors Jules Desbois, qui a quand même célébré la beauté de la femme, qu'est-ce qu'il a voulu montrer ici avec cette très vieille femme ?
Alors Jules Desbois, il aime le détail et il aime révéler des choses. Et c'est vrai que dans la commande publique, on ne peut pas se permettre tout ce que l'on veut. Et il a aussi du coup son travail personnel, donc quelque chose d'un petit peu plus secret. Dans son atelier, il a cherché d'autres manières de faire et il a tout un travail autour de la déchéance du corps. Le corps qui vieillit, le corps mort. Et donc du coup, il va travailler à essayer de représenter ses corps, en sachant qu'on est à une autre époque. Et donc du coup, on ne représente pas à cette époque ses corps vieillissants. Ça ne se faisait pas, tout simplement. Ne l'apprenait pas et donc lui, il a osé, on peut le dire, travailler sur cette femme vieillissante et c'est devenu en fait une œuvre un petit peu emblématique effectivement de l'histoire de l'art en termes de sculpture parce que c'est la première fois que l'on représente la vieillesse telle qu'elle est réellement et pas celle qu'on apprend à l'école.
Est-ce qu'on peut dire que cette œuvre, ça l'a fait sortir du lot des sculpteurs? Ça lui a donné aussi peut-être une notoriété ou une place dans l'art beaucoup plus importante?
Exactement, parce que si vous allez au musée d'Orsay, Jules Desbois représentait au musée d'Orsay dans les vitrines par une version de cette misère. Donc c'est vraiment cette œuvre-là qui va dire « Ah, il n'est pas comme les autres ».
Ça veut dire que c'est pas tout son travail antérieur académique, classique, qui est présenté maintenant, qui est retenu maintenant.
En tout cas, c'est pas celui qu'on a envie de présenter, parce qu'on a envie, de montrer effectivement l'évolution de l'histoire de l'art, et celle qui est classique n'est aujourd'hui moins valorisée.
Malgré tout, ces œuvres classiques, on les voit dans le musée, dans les différentes pièces du musée, elles sont, comme vous le disiez, c'est un très grand artiste, il a quand même, dans le classique, fait des choses assez exceptionnelles. Il n'était pas complètement... Plan-plan, quoi.
C'était, pas du tout.
Voilà, la représentation des femmes, comme on disait tout à l'heure, elle est assez, assez merveilleuse. Il y a des mouvements, des détails. Il sortait déjà du lot quand même.
Exactement. Bah, c'est pour ça qu'effectivement, c'est un artiste qui aujourd'hui est en musée, déjà.
Voilà.
Et, ouais. puis, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de municipalités qui sont intéressées à son travail parce que ses œuvres assez esthétiques ont été présentées dans beaucoup de parcs et jardins en France.
Alors Jules Desbois est né à Parçay-les-Pins. Bon, il a fait toute sa carrière à Paris, hein, pas à Parçay. Ce musée, c'est vraiment une pépite avec de très belles œuvres dans un tout petit village. Comment est-ce qu'il est né ce musée? Je crois que c'est une belle histoire humaine aussi.
Alors comme beaucoup de musées, il y a maintenant une quarantaine d'années, eh ben, vous avez une association derrière. Vous avez des habitants qui se disent oh, « dans notre village quand même est né ce magnifique sculpteur ». Il faut qu'on ait un devoir de mémoire vis-à-vis de lui. Donc ce sont des habitants qui se sont d'abord mobilisés et puis très rapidement, on a eu la chance à Parçay-les-Pins d'avoir un enseignant de sculpture des Beaux-Arts d'Angers qui a acheté l'ancienne maison de Jules Desbois et dans cette maison, il a commencé à collecter des œuvres à droite à gauche, donc des objets d'atelier pour beaucoup, des objets qui appartenaient à Jules Desbois et puis commencer aussi à inventorier un petit peu ce qu'il y avait en France et puis dans les fins des années 90, le département s'y est intéressé en disant on ne peut pas laisser ses œuvres dans la maison de ce monsieur ou en tout cas, ce monsieur doit faire visiter son jardin, les œuvres sont dehors, il faut les protéger.
Et donc, c'était déjà un musée un peu comme ça, c'était pas un...
Ça ressemblait déjà à un musée, mais chez quelqu'un.
Ouais.
Et donc, du coup, de là est né en fait un musée plus construit. La collection a été remise à la municipalité. Elle a été agrandie par beaucoup de dépôts de grands musées parisiens et français. Et donc, c'est comme ça qu'est né un musée municipal, mais avec toujours une association derrière qui est là pour...
Elle existe toujours, l'association.
L'association existe toujours. Elle l'aide, en fait, aujourd'hui, la municipalité à faire de nouvelles acquisitions pour que le musée puisse encore avoir des acquisitions d'œuvres de Jules Desbois.
Il y a encore des acquisitions à faire? Vous n'avez pas tout?
Oui, alors oui, on est même en plein dans le sujet, parce que cette semaine, on a tenté d'avoir une nouvelle acquisition. Malheureusement, Jules Desbois, c'est un artiste qui prend encore du galon. Et malheureusement, plus le temps passe, plus c'est compliqué de faire des achats, effectivement, des œuvres.
Et donc, l'œuvre est partie trop chère pour le musée.
Exactement, pour résumer.
Et qu'est-ce que vous trouvez, là, en ce moment, de lui? Qu'est-ce qu'il peut encore trouver? Parce que l'œuvre majeure, le chef-d'œuvre est dans le musée, mais qu'est-ce que vous trouvez encore?
Alors, on a, en fait, la particularité, comme il a fait beaucoup d'œuvres en espace public qui sont sur les architectures. Donc, nous ne les possédons pas.
Ouais.
Donc, il y a encore des versions, parce qu'il faut savoir qu'un sculpteur ne fait très, très rarement une seule version. On va avoir plusieurs versions avec des tailles différentes, avec des objets d'atelier qui ont servi pour réaliser l'œuvre finale et parfois juste des échelles différentes d'œuvres. Et donc, du coup, il y a encore des versions qui sont encore chez des particuliers.
Et qui sont intéressantes à acquérir.
Et en l'occurrence, des versions qui, là, pour le coup, c'est un médaillon et c'est un portrait de femme qui est sur un bâtiment public. Et là, c'est une version qui est en sculpture, donc quelque chose que nous n'avons pas, nous, au musée. Donc, c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois.
Il y a d'ailleurs dans le musée, dans une des salles, trois photos immenses qui représentent son atelier. Donc, on peut voir... On voit assez bien, en fait, ses œuvres in situ. Enfin, c'est une photo, mais on voit ses œuvres dans son atelier.
Alors, on a beaucoup de choses autour de Jules Desbois, tout simplement, parce qu'il était reconnu de son temps. Donc, on a les journalistes et critiques d'art de l'époque qui ont beaucoup traîné dans son atelier, c'est vraiment le mot, qui venaient faire des interviews, mais aussi des reportages photos. Donc, on a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments. Et donc, du coup, on peut voir effectivement à quoi ressemblait son atelier avec toutes les œuvres qui sont aujourd'hui dans le musée en comparaison avec les photos.
Alors, avant de continuer notre visite au musée Jules Desbois, on va faire une petite pause. On va écouter Miossec avec Boire, Écrire, S'enfuir. Miossec se produira le 25 juin à 21h30 au Plessis Massé. C'est un concert du Chabada, donc tous les renseignements sont sur le site du Chabada. On écoute Miossec.
sais plus d'où elle vient. Elle a fait une croix sur tout ce qui lui rappelait un peu trop les siens. Elle ne sait plus ce qu'elle peut, car elle ne sait plus de qui elle tient. Elle aime la joie, elle aime le feu, les incendies que l'on déclenche pour un rien. Elle a tout, elle a tout. Elle a tout sous le ciel, mais elle ne le voit pas. Dans tes yeux, on ne voit que ça. Un homme fragile qui ne sait plus où il va, qui marche sur l'eau, ou du moins il le croit. Si tu ne sais plus.
Vous êtes toujours à l'écoute de Franche Culture sur Radio Campus et nous poursuivons notre visite du musée Jules Desbois de Parçay-les-Pins avec notre invitée Cécile Gouezet, responsable du service des publics et de la communication pour les trois musées insolites en Anjou. Le musée Jules Desbois accueille en ce moment des œuvres de Fabien Mérel jusqu'au 6 novembre. L'exposition est intitulée « Par-delà le modèle ».
Cécile Gouezet, Fabien Mérel est un artiste contemporain, réaliste. Il est aujourd'hui quand même extrêmement reconnu, même à l'international. Il a exposé à Hong Kong. Comment l'avez-vous rencontré? Pourquoi ce choix?
Alors, l'idée, c'est que chaque année, on invite un artiste contemporain pour dialoguer avec les œuvres de Jules Desbois. Fabien Mérel, on est allé le chercher parce qu'il a une méthode de sculpture qui est très, très moderne. Donc, il ne se cache pas. Il dit même qu'il n'est pas sculpteur. Il fait de la sculpture par le biais de tous les objets numériques qu'on peut avoir en notre possession aujourd'hui. Et donc, du coup, il utilise toutes les techniques modernes. Et donc, nous, on est allé le chercher parce que, voilà, ça nous plaisait, cette idée, en fait, de confronter un art très classique avec un art très contemporain, pourtant avec le même but, c'est-à-dire cette représentation qu'on peut parler d'hyper réaliste, d'essayer d'être au plus près du réel.
Oui, j'ai cru comprendre que c'était avant tout un dessinateur. Il sculpte pas la matière. Comment est-ce qu'il procède exactement?
Alors, Fabien Mérel a un parcours très classique d'école des Beaux-Arts. Et ensuite, il s'est spécialisé dans le dessin à l'encre de Chine. Donc, il est allé en Chine pour suivre ses études, pour vraiment maîtriser cet art. Il fait des dessins hyper réalistes. Vraiment à l'encre. Et puis ensuite, de ses dessins, il voit comment il peut les construire en sculpture. Donc, il va faire appel à des entreprises, hein, clairement, qui vont pouvoir, à l'aide d'impression 3D, qui vont pouvoir faire avec plein de machines différentes, la réalisation de ses dessins en sculpture. Donc, c'est vraiment un artiste dessinateur à la base.
Oui, donc en fait, la question, par rapport à ce que l'on connaît de la sculpture, du sculpteur avec sa terre, avec son burin, lui, il est dans une démarche complètement différente. Il y a quand même plusieurs belles histoires autour de cette exposition de Fabien Mérel. Tout d'abord, il y a une œuvre quand même assez étonnante qu'il a réalisée avec son père, donc on le voit enlaçant son papa. C'est une performance humaine. Comment est-ce qu'elle a été créée? Parce que j'ai trouvé cette histoire complètement folle.
Alors, il faut savoir que Fabien travaille beaucoup sur le sujet de la famille. Il y a beaucoup d'œuvres qui représentent son père, sa femme, ses enfants. Et un jour, voilà, il a souhaité réaliser quelque chose. Alors, on ne sait plus si c'est la sculpture ou la performance qui est l'œuvre d'art. Et il est resté 8 heures dans les bras de son papa. Et une autre sculptrice, une autre artiste est venue en fait les mouler dans leur posture. Donc, sans bouger pendant 8 heures, de la tête aux pieds, juste les narines libérées pour pouvoir respirer, ils sont restés sans bouger. Et ce qui a donné trois œuvres d'art qui s'appellent les étreintes, donc une partie avec les bustes, la partie basse du corps et puis les deux têtes enlacées.
Alors ces trois œuvres d'art, elles sont exposées dans le musée. Il faut savoir que l'exposition temporaire que vous faites là sur Fabien Mérel, elle n'est pas dans une salle particulière du musée. Les œuvres sont introduites dans les salles préexistantes, donc au milieu des œuvres de Jules Desbois. Donc là, cette sculpture-là, cette performance sculpture, elle est en trois exemplaires dans trois endroits différents du musée.
Alors, l'idée, c'est vraiment d'avoir un dialogue avec les œuvres de Jules Desbois. Ce dialogue, il est provoqué par l'artiste dans les choix des œuvres, mais aussi notre programmatrice, Alexandra Bourriquet, qui fait le choix de l'artiste, qui fait les échanges avec les artistes. Et donc, du coup, c'est tout un processus. C'est pas on choisit les œuvres, on vient les mettre, mais il y a vraiment, ça fait 2 ans qu'on travaille dessus et qu'on échange et qu'on lui présente les œuvres de Jules Desbois et qu'on voit là où il peut y avoir le dialogue.
Est-ce qu'il a fait des œuvres spécialement pour le musée?
Alors, il a reproduit des œuvres qu'il avait déjà. Il faut savoir que c'est un artiste qui est extrêmement reconnu aujourd'hui, qui a plus beaucoup d'œuvres en sa possession. Donc, il a reproduit certaines œuvres qui sont déjà vendues à des collectionneurs pour pouvoir les remettre au musée à des échelles du coup, qui correspondent à ce qu'il souhaitait raconter.
À ce qui correspondait à un dialogue en fait avec les œuvres du musée Jules Desbois.
Exactement.
Il y a une histoire absolument incroyable.
Ah oui, là,
quand Fabien Mérel visite le musée Jules Desbois, il tombe en arrêt devant cette statue dont on a parlé tout à l'heure, La Misère, et il dit « Mais incroyable, cette femme ressemble à mon arrière-grand-mère ». Et c'est vrai, elle ressemble à son arrière-grand-mère.
Elle ressemble.
Racontez-nous cette histoire parce que c'est fabuleux.
Alors là, c'est vraiment la pépite. Quand on fait une expo comme celle-ci, l'idée, c'est que l'artiste s'inspire aussi du lieu. Donc là, il y a plus de 2 ans maintenant, Fabien visite le musée. Donc on l'y invite, il ne le connaît pas. Il découvre le travail de Jules Desbois. Il est complètement séduit par tout simplement ses modelés et puis cette qualité de sculpture. Et puis, il tombe nez à nez avec La Misère et... par un hasard, comme il dit, il aurait pu ne pas poser la question. Il demande à Alexandra, la programmatrice, qui est cette femme. Donc Alexandra lui répond, effectivement, on connaît le nom de ce modèle, c'est Maria Kera. C'est un modèle qui a posé pour Jules Desbois, pour Auguste Rodin et pour Camille Claudel pour les sculptures qui représentaient ces vieilles femmes, donc tout à fait novateur. Et là, il réagit et il dit, mais en fait, je pense que je connais le village d'où vient cette femme, car c'est le village de mon arrière-grand-mère. Effectivement, elle se ressemble. Et je pense que je connais les peuples qui sont venus poser pour cette sculpture. Parce qu'en fait, au-delà de cette œuvre-là, c'est finalement, on a déroulé un fil et c'est finalement, on se rend compte que de ce village viennent tous les modèles des grandes sculptures que l'on connaît de 1900. Donc il y a toute une recherche d'histoire de l'art qui, depuis 2 ans, s'est enclenchée juste par cette réflexion. Elle ressemble à mon arrière-grand-mère.
Et c'est incroyable parce que, si j'ai bien compris, c'est un tout petit village d'Italie du Sud qui a...
C'est entre Rome et Naples, ouais. Un village de montagne.
Et qui a fourni des modèles, et pourquoi comment a démarré cette histoire? Pourquoi des gens de ce village-là particulièrement?
Alors, ce petit village s'appelle Latina, c'est exactement entre Rome et Naples. Ce sont tout simplement de la pauvreté qui a fait que le peuple s'est déplacé vers Rome, d'abord tout simplement pour aller mendier. Et puis, ce sont des personnes qui ont un folklore, tout simplement avec des vêtements teintés de couleurs un peu vives, un visage aussi un peu dur, ce sont des montagnards. Et à Rome, les artistes ont commencé à leur demander s'ils voulaient poser pour leurs œuvres. Et puis de Rome, ça s'est déplacé à Paris, puis ça s'est déplacé à Berlin. Et on faisait venir ces modèles du coup qui partaient dans les capitales, appelaient leurs cousins, leurs cousines en disant ici il y a moyen un petit peu de survivre, les modèles n'étaient pas riches, mais au moins ici on pouvait faire un petit peu d'argent pour après peut-être renvoyer cet argent. Et donc c'était devenu vraiment le filon et tous les modèles venaient, apparemment au début du siècle, 80% des modèles à Paris venaient de ce village.
Et vous avez choisi Fabien Mérel et il avait un lien que vous ne connaissiez pas avec Jules Desbois?
Aucun. Et c'est toute une famille du coup qu'on a embarqué dans l'histoire parce que la maman qui est venue aussi, qui nous a traduit des textes, parce que finalement
c'est un dialecte
effectivement qui est encore parlé là-bas, sa grand-mère parle encore, la tante parle encore, et donc du coup ça a déclenché quelque chose de très très fort. Finalement, l'expo qui était une expo pour nous plutôt technique est devenue énormément
humaine
d'émotions, de liens, c'est intergénérationnel. Ça parle à tout le monde, donc c'est vraiment chouette d'arriver à un projet comme celui-ci sans même n'en avoir écrit une ligne. Et...
sans l'avoir cherché.
Fabien Mérel, il est très, très, évidemment très ému par tout ça. Je voudrais lire un peu de sa lettre d'intention. Il a fait, le premier paragraphe de sa lettre d'intention est assez magnifique. Il dit « Je n'imaginais pas en venant à Parçay-les-Pins plonger dans mes racines. En déambulant pour la première fois dans le musée, je suis tombée en arrêt devant La Misère, donc le chef-d'œuvre de Jules Desbois. Ce visage m'était familier et sans même le connaître, il ressemblait à celui de mon arrière-grand-mère. Alors à tout hasard, j'ai demandé qui fut le modèle. On me répondit « Maria Kera, une femme du village de ma mère ». Cette coïncidence fut le point de départ d'une quête dans les archives du musée Rodin, dans celles du musée d'Orsay et ailleurs. voilà, les mots de Fabien Mairet. Alors c'est vrai que, est-ce que les modèles étaient totalement inconnus jusqu'à présent, ou est-ce que c'est vraiment cette histoire-là qui démarre la mise en valeur de la personne du modèle? Elle ressort dans l'histoire de l'art, ou...
Pour l'anecdote, effectivement, Fabien, quand il est rentré au musée d'Orsay et au musée de Rodin pour poser ses questions, en fait, tout le monde était content qu'il les pose, ces questions, parce que finalement, il y a une méconnaissance incroyable sur les modèles. Juste pour vous dire, juste le penseur de Rodin, qui est quand même une des œuvres les majeures de l'histoire de l'art, ouais. On ne savait pas que le modèle venait de ce même village. Donc c'est vraiment... On avait le nom de ce modèle, mais personne n'avait fait de recherche.
Quand même, il y avait les noms, on savait quand même.
Il y avait un nom, ouais. Comme nous, on a Maria Chiara, mais finalement, on est en
train de se rendre compte... Parce qu'ils étaient payés, peut-être aussi, donc il y avait peut-être dans les registres.
Oui, ben nous, le nom de Maria Chiara sort plutôt d'un texte de Mirbeau qui avait écrit sur ce modèle. Donc, on en a déduit que c'était elle parce que le modèle femme qui venait d'un village, mais sans plus. Donc, finalement, on a plein de conservateurs qui ont réagi en disant super. On en a même celui du musée d'Orsay qui est venu au musée il n'y a pas longtemps. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui est déclenché.
Quelque chose qui s'est enclenché. Là.
On n'est plus dans l'art contemporain et ça, c'est vraiment chouette de pouvoir faire ces ponts entre les différentes pratiques.
Encore une très belle rencontre.
Et donc Fabien Mairel, il a placé devant cette statue un petit garçon en face de la misère qui lève la tête et qui la regarde. C'est à la fois classique, mais c'est très très beau. Et vous nous avez dit que les enfants réagissaient beaucoup à cet échange entre la vieille femme et le petit enfant.
Alors cette sculpture, elle s'appelle Le Rêveur. C'est son fils Samuel qui est représenté. Il y a quelque chose de très attirant sur cette sculpture, c'est qu'en fait, on le dialogue avec la misère et limite, on n'a pas envie de les déranger. Parce qu'on pense qu'ils sont en train de se dire quelque chose.
C'est vrai.
Pour ceux qui ont déjà rencontré, qui sont déjà venus au musée, cette femme, cette œuvre majeure, est très impressionnante. Elle impressionne petits et grands, elle peut même gêner. Et alors là, depuis que le petit garçon est là, plus de soucis. On a l'impression juste que c'est un dialogue entre un petit garçon et son arrière-grand-mère. Et il y a beaucoup, beaucoup de douceur. Et les enfants s'approprient vraiment cette sculpture. Ils sont autour. Ben, ils se voient eux, clairement, parce qu'il est habillé en plus comme un enfant d'aujourd'hui. Donc c'est beaucoup plus facile
de
s'identifier pour un enfant. Et ça change tout le regard de ce musée. C'est ça qu'on aime, finalement, le temps d'une année. On est encore dans un autre... dans un autre discours.
C'est la jeunesse qui adoucit la vieillesse, en fait.
Un peu.
Ils le font de manière naturelle, en fait, effectivement. On pourrait penser que c'est artificiel de mettre en dialogue deux sculptures de temps différents. Eux, ils trouvent tout de suite, les jeunes enfants, là, ont tout de suite trouvé la vérité là, dans
Exactement.
Ce dialogue.
Exactement. Elle passe de la femme qui fait peur à c'est la mamie.
Voilà. On peut aussi parler de la sculpture de sa femme, enceinte.
Ah oui, elle est étonnante avec lui, parce qu'il se représente beaucoup, en tout petit, lové sur le ventre de sa femme enceinte, donc contre son enfant. Qu'est-ce qu'il a voulu dire ?
Alors Fabien, il a vraiment, un peu comme je disais sur Jules Desbois, mais Fabien et les femmes, c'est toute une histoire, les femmes de sa famille, il est très impressionné et il a beaucoup, beaucoup de respect pour les mères.
Et il les comprend, ça se voit dans son œuvre.
Et ce qu'on lui a transmis, et l'histoire de ces femmes de sa famille, mais aussi du coup de sa femme et de ses filles, et cette œuvre, c'était une manière de dire, mais moi où je me mets en fait, quand ma femme était enceinte, bon il y a beaucoup de papas, je pense qu'ils doivent se poser cette question quand leur compagne est enceinte, oui. Et là c'est une manière de représenter, c'est-à-dire que ce petit bout d'homme qui essaye de s'accrocher au ventre en disant moi je prends ma place quelque part là où on me la donne, donc c'est une œuvre finalement qui est dans un imaginaire total mais qui fonctionne énormément,
qui est très très touchante.
Ouais, une très belle exposition. L'exposition Par-delà le modèle, c'est jusqu'au 6 novembre au musée Jules Desbois de Parcelles-les-Pins, à voir absolument, vous l'aurez compris. Direction maintenant Beaufort-en-Vallée, au musée Joseph Denet, qui a aussi son actualité, avec notamment dès ce week-end, 18-19, les journées de l'archéologie et les activités autour de la Grande Grèce. Cécile Gouezet, vous nous en parlez ?
Oui, avec plaisir. Alors oui, ce week-end, c'est Journée européenne de l'archéologie. Comme chaque année, le musée Joseph Denet met en valeur une partie de ses collections antiques. Et cette année, on a décidé de mettre en avant toute la partie sur la Grande Grèce, et plus particulièrement un antéfixe qui représente la Méduse. On sait que c'est un sujet très dans l'imaginaire, qu'on soit fan d'archéologie ou pas, où finalement, on a une image de cette Méduse qui pourrait nous transformer en pierre. Donc, de ce petit objet, du coup, on en sort plein d'activités. On fait des animations d'archéologie en famille. On a une conférence avec une universitaire qui vient nous parler de la représentation de la Méduse dans l'histoire de l'art. On a plein d'activités.
Il y a aussi une exposition temporaire consacrée à Richard Rack.
Alors, Richard Rack, artiste contemporain angevin. C'est vrai que cette année, on a des artistes plutôt du coin. Il est basé à Couture. Et Richard, en fait, c'est un artiste collectionneur, un peu à l'univers des cabinets de curiosité, qui, en fait, a déplacé un petit bout de son cabinet de curiosité au sein des collections de Joseph Denet.
Oui, parce qu'il faut dire que le musée Joseph Denet, pour nous vous le décrire, enfin, si vous pouvez nous le décrire un petit peu, c'est avant tout un cabinet de curiosité, une collection privée qui a abouti sur ce musée. Parlez-nous de Joseph Denet, de cette collection.
Alors, Joseph Denet, collectionneur 19e siècle, qui s'est donné comme mission de faire découvrir le monde aux habitants de sa petite ville, de Beaufort. Donc lui, il a rencontré, tout au long de sa carrière de journaliste, divers corps de métier, divers voyageurs, archéologues, industriels, artistes au 19e. Et à chaque fois, il avait toujours la même chose, c'était « Je veux faire un musée, avez-vous des choses à me donner ?» Et donc, on va d'une galerie d'histoire naturelle à une salle des beaux-arts, à des momies égyptiennes, à un petit Camille Claudel donné par le baron de Rothschild, à une galerie des voyages. Enfin, c'est très 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 vaste et varié, avec toujours des petits objets insolites et improbables, mais pour lui tout était intéressant, donc il y mélangeait les choses, pas de hiérarchie, il n'y a pas une œuvre plus importante qu'une autre. Et donc du coup cet endroit il est vraiment pour tout le monde, c'est une balade familiale, et donc Richard Rack, notre artiste contemporain, est vraiment dans le même univers, et donc du coup on y a mis des petites pépites au milieu du musée qui sont à lui. Des fois on se pose un peu la question de 19e ou pas 19e, Joseph Denet ou Richard Rack.
Ah oui, donc c'est la même chose que dans le musée de Parçay-les-Pins. En fait, les œuvres sont disséminées au milieu du musée et dialoguent en fait.
Exactement.
Cécile Boiset, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes chargée des publics et de la communication des trois musées insolites en Anjou. C'est la fin de ce Franche Culture. 30 minutes de culture tous azimuts en Anjou. Merci à vous, auditeurs de Radio Campus, pour votre écoute. Retrouvez-nous pour la rediffusion de l'émission mardi prochain à 19h. Et surtout, si vous avez aimé notre émission, n'hésitez pas à la partager, partager notre podcast et nous liker sur les réseaux sociaux.
À retrouver sur le www.radiocampusangers.com.